un peu pendant quelques incarnations. Un jour, tu te dis, tiens, peut-être Dieu existe. Qui suis-je? Que sont les étoiles? Peut-être que si je rencontre Dieu, je deviendrai plus heureux. Tu vas te mettre à travailler, à l'évolution, tu vas évoluer. On va te dire pendant tous ces temps d'évolution que Dieu existe, que j'existe, que tu vas me voir. Et puis finalement, pour qu'on rigole bien dans l'univers et pour que ce soit vraiment marrant à la fin de tous les âges, au moment du rendez-vous, il n'y aura personne.
Alors je te propose une chose simple. Je te propose de...
Si l'on imagine...
Et de savoir que
la chose de la sorte, il faudrait aussi imaginer que Dieu vous tend ce genre de piège et vous fait ce genre de mauvaise plaisanterie. Or, même s'il a le sens de l'humour, car il n'y a pas de personne qui rit autant ni plus que Dieu, car il n'a pas de souci, il faut dire.
Comme cela, tu ne commettras aucune erreur.
S'il a ce genre d'humour, il n'a pas l'humour suffisamment noir pour créer une évolution au bout de laquelle il n'y aurait rien, et surtout pas la personne que l'on doit et que l'on promet de rencontrer.
En termes d'humain et de divin,
si Bouddha a donné cette vérité, et si tous les grands illuminés découvrent la même vérité, c'est parce que Dieu ne se trouve pas au ciel, mais en vous. La partie vivante, celle que vous imaginez comme étant Dieu, car c'est la partie vivante de Dieu que vous imaginez quand vous croyez en Dieu, quand vous aimez Dieu, quand vous priez Dieu. C'est à sa partie vivante, manifeste, que vous pensez et que vous appelez. Et c'est justement cette partie-là qui n'est pas aux cieux, qui est en vous. Et à la fin de tous les âges, lorsque cette partie vivante manifeste de Dieu, qui est vous-même et qui est en vous-même, lorsqu'à la fin de tous les âges, elle ramasse son histoire, elle ramasse tous ses éléments, elle ramasse tout ce qui a été elle, en une seule et grande entité, cette partie-là qui est le manifester, remonte vers l'autre partie qui est toujours restée sur le seuil, remonte vers le néant. Et les deux parties se rencontrent. Et c'est à ce moment-là que l'on dit que l'univers se dissout. Et qu'enfin, le Dieu qui s'est manifesté retourne au repos dans la non-manifestation. Mais je le répète, le néant n'est pas simplement la non-existence, le vide, comme un homme imagine le vide. C'est un endroit, une forme d'existence, où tout semble avoir disparu sans pour autant avoir cessé d'être.
Je ne suis soumis à aucune.
Réfléchissez bien à toutes ces choses.
De ces dualités.
Et si j'avais pu faire une seule chose pour vous ce soir, je veux que ce soit celle d'avoir arraché la dualité dans vos conceptions. Vous n'avez pas besoin de réécouter ma parole. Simplement travailler à ce terme, la dualité, et essayer de la dissoudre. Car les paroles, en fait, ne servent à rien. C'est un processus que vous devez comprendre, duquel vous devez vous libérer petit à petit. Vous ne pouvez pas vous attendre dès demain à être un être de liberté. C'est faux, car le mental inférieur qui a été habitué à contempler les irréalités va vous envoyer pendant très longtemps ces informations. Ce n'est qu'à force de vous recentrer dans votre présence que vous arriverez à déprogrammer votre cerveau, puis votre mental. Et qu'en ayant déprogrammé le mental, vous puissiez ramasser l'entier du mental pour le faire monter dans les zones supérieures. Et là, vous verrez de quelle initiation je parle. Et ce n'est pas une initiation qui est promise simplement à celui qui a de la chance, à celui qui a travaillé, à celui qui a lu tout ce qui existe, à celui qui suit un temple. L'initiation est quelque chose qui arrive à celui qui se l'autorise par le degré de liberté dont il est capable. Si vous voulez concevoir l'initiation, il n'y a pas d'autre terme pour la décrire. C'est quelque chose que vous vous permettez en équivalence exacte avec le degré de liberté que vous pouvez atteindre. Donc vous voulez évoluer, c'est très bien. Vous voulez travailler à la spiritualité comme s'il s'agissait de travailler à une grande œuvre, c'est très bien. Mais tout cela ne veut rien dire, tout cela n'apporte rien. Si pour vous, spiritualité n'égale pas liberté, et si effort spirituel n'égale pas effort de libération, et vous verrez que vous serez obligé d'être un disciple exemplaire de cette façon-là, parce qu'il y a des tas de choses que vous ne pourrez plus vous permettre, ou en tout cas que vous ne pourrez faire qu'avec le grand sentiment de liberté, donc en évacuant complètement la culpabilité. Car voilà un terme sur lequel il vous faudra travailler pour bien concevoir la libération. C'est travailler sur les culpabilités. Car c'est ce qu'en voit la psychologie. Cette psychologie qui dit « tu n'es pas, tu n'as pas fait, tu n'es pas beau, tu n'es pas bon, tu n'es pas grand ». Et l'homme se trouve chargé de culpabilité. Et en quelque incarnation, il affiche dans l'éthérique un dos complètement bossu de culpabilité. Comment voulez-vous qu'un Dieu aille chercher un tel disciple, un disciple qui se courbe lui-même la tête contre la terre, alors qu'il n'y a aucune raison, parce que Dieu l'a créé libre, l'a fait libre? Il faut que lui-même se débarrasse du surplus de poids et qu'il regarde Dieu en face. Simplement, il ne le verra en face que dans la mesure où lui-même, l'homme, se dressera debout,
dans la civilisation.
Soyez des hommes
debout de Dieu,
et des hommes libres,
et impose la
et étendez l'envergure de cette liberté comme un ange déploie ses ailes. Et vous verrez que non seulement votre vie sera fantastique, mais que vous trouverez fantastique toutes les choses que vous ferez pour les autres afin de leur déployer aussi leurs ailes. Je vous
les erreurs de la civilisation ne vont pas empêcher Dieu de se sentir à l'aise ou d'être performant. C'est une erreur de penser que dès que vous apprenez à méditer, dès que vous apprenez à concevoir quelque chose de spirituel, il vous faut vous retirer à la campagne, loin des hommes, ou il vous faut vous retirer dans un monastère et ne plus voir personne. Vous concentrez sur Dieu, sur Dieu, sur Dieu, comme si Dieu seul existait. Mais je te le demande, est-ce que Dieu seul existe? Quand tu es sur la terre, quand tu es dans la vie, est-ce que Dieu t'apparaît? Non, tu ne rencontres pas Dieu, tu ne vois pas Dieu, Dieu ne te parle pas. Par contre, tu vois, tu entends des milliers d'autres hommes comme toi. Donc ta concentration ne doit pas se faire que sur Dieu. Car Dieu se moque de ce que tu peux te concentrer sur lui ou pas. Dieu ne connaît pas le culte de la personnalité. Il ne veut donc pas qu'on le prie ni qu'on se concentre sur lui. Il ne faut pas confondre Dieu et Staline. Par contre, Dieu t'envoie parmi les autres hommes. Pourquoi? Non pas parce que Dieu est généreux et qu'il se dit « il faut sauver mes pauvres enfants ». Certes, sa générosité existe. Bien sûr, son amour existe. Mais si Dieu attend que celui qui sait quelque chose reste parmi les hommes, c'est parce qu'il est lui-même, Dieu, prisonnier dans les autres hommes, et qu'il attend d'un autre Dieu, qui est un autre lui-même, de venir le libérer.
Si l'on pense que Dieu envoie des disciples dans le monde pour sauver les pauvres ignorants, on est encore victime de cette pensée dualiste qui crée un Dieu plein d'amour, plein de générosité et une matière affreuse qui emprisonne les hommes, qui les tient et qui ne veut pas les redonner à Dieu. Voilà, moi je suis la matière, moi je suis la mère, moi je garde mes petits. Et toi, Dieu, là-haut, tu attendras. Si l'on imagine un jeu comme cela, on s'aperçoit tout de suite qu'il n'y a aucune logique, que cela n'est pas sensé, que le cosmos ne peut pas habiter dans l'univers, dans l'espace, pour cette raison-là. Il n'y a aucune matière qui tient les hommes, parce que tout simplement, aussi dure que paraisse la matière n'existe pas. Je ne veux pas dire que la matière n'existe pas comme si ce que l'on ressent autour de soi, en dessous de soi, comme si cette sensation était une illusion. Je dis simplement que le concept que l'on se fait de la matière, et encore une fois, c'est une histoire de concept. Je veux travailler sur vos idées, car ce n'est qu'en libérant l'idée que l'on libère le mental et que l'on ouvre donc la porte sur la contemplation de l'âme. Quand je dis que la matière n'existe pas, je dis que le concept humain de la matière est faux. La matière existe. Mais elle n'existe que parce que des particules de l'esprit se sont cristallisées suffisamment et ont obéi suffisamment à l'ordre qui leur était donné de se maintenir dans un certain groupe, dans une certaine danse, une certaine vibration, pour qu'une forme ait lieu, pour qu'un élément apparaisse. Donc il faut quitter la vision dualiste qui dit « il y a la matière dure et il faut s'en sortir parce que Dieu nous attend ». Si vous pensez de la sorte, alors moi je vous demande, mais Dieu qui a tant d'amour que cela, Dieu qui est la plus haute des divinités, qui est toute liberté, qui ne veut que le bien pour ses enfants, ce Dieu-là dont je parle, s'il vous aimait tant que cela, pourquoi est-ce qu'il vous aurait plongé dans la matière, sachant que la matière aurait tout fait pour vous retenir? Et quel intérêt est-ce qu'il y aurait ensuite à ce que ce père méchant essaye de vous retrouver, de vous ramener à lui? Ce serait complètement insensé, complètement idiot. Et comme je l'ai dit mille fois, si un tel Dieu existait, je serais le premier à le combattre. Et je vous en donnerai un autre, qui lui serait logique et sensé. J'essaierai de le fabriquer. Mais heureusement, un tel Dieu n'existe pas. Celui qui existe est largement suffisant. Parce qu'il est déjà toute harmonie, tout équilibre, toute logique. Et cette logique, pour la découvrir, il vous faut vous dépouiller du dualisme. Donc, sachez que lorsque vous contemplez une vérité, pour l'heure, vous la contemplez avec tout l'illogisme dans lequel vous conduit la vision dualiste. Pour donc contempler la parole de Dieu, ou pour contempler l'initiation qui vous est promise, il faut vous dépouiller de l'illogisme du dualisme. Et ainsi vous découvrirez la logique de Dieu. Et que vous dit la logique de Dieu? La logique de Dieu dit des choses très simples. Elle dit par exemple, tu es lumière. Tu as toujours été lumière. Tu restes lumière, même dans la matière. Et tu continueras toujours à être lumière. Alors la petite lumière qui entend la voix de Dieu dire cela se gratte la tête et dit « Mais dis-moi, grand feu, Tu dis que je suis lumière, que je l'ai toujours été, que je le suis et que je le serai toujours. Mais comment est-ce que cela se fait que lorsque je suis dans mon corps, lorsque je suis dans la matière, il ne me semble pas être lumière? Alors le grand feu répond, c'est parce que tu regardes à l'endroit où n'existe aucun feu. Tu regardes à l'endroit où il n'y a que le bois, et le bois a brûlé. Alors prends ce bois, prends ces bûches que tu récoltes sur la surface de la terre, grâce à tes incarnations, grâce aux circonstances, aux événements, grâce à ce que tu appelles toi-même le processus initiatique. Récupère ces bûches et mène-les au feu qui est en toi, dans le centre. Et tu verras qu'à ce moment-là va se déclencher un gigantesque incendie, un immense feu divin que tu ne soupçonnes pas et que tu me reproches de ne pas allumer en toi. Je ne peux pas l'allumer en toi parce que tout simplement, nous sommes des flammes similaires. Alors, quelle flamme est-ce que je pourrais apporter à ta flamme, puisque nous sommes similaires? La seule chose qui puisse grandir ton feu, de même que mon feu, c'est lorsque tu amènes les bûches dans le feu. Alors, il devient beaucoup plus grand. Alors, le petit esprit demande, mais pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'apporter des bûches? Et pourquoi, après tout, est-ce qu'il est nécessaire de faire un grand feu? Puisque toi, tu es un grand feu, est-ce que tu ne pouvais pas me créer de façon aussi vaste que toi? Et ainsi, tu m'aurais laissé la paix? Je n'aurais rien eu à connaître qui appartienne au cosmos, à l'incarnation, à la matière et à tout le reste? Alors le grand feu lui répond, vois-tu, il se trouve que je t'apparais comme étant un grand feu. Mais en fait, je ne suis que le feu qui veille et qui garde. En fait, le plus grand feu, lui, s'est installé, s'est instauré dans la matière. Il est rentré dans le cosmos, il a pénétré le cosmos et s'est éveillé sous toute forme de vie. Tandis qu'une partie de lui restait sur le seuil pour être le gardien du seuil. Le gardien du cosmos, le gardien de la restitution et de la réintégration finale. Alors le petit esprit demande, bon, je comprends, en fait, Dieu n'est pas au ciel, mais Dieu est incarné à travers tout le cosmos, tout l'univers, dans toutes les formes de vie, et que ce qui est en haut et que l'on appelle Dieu, ce n'est qu'une petite partie de Dieu qui est là pour garder et pour réintégrer ensuite le Dieu qui revient du cosmos et de son incarnation. Jusque-là, je comprends, et je comprends que si je veux véritablement contempler Dieu, je dois au contraire aller dans la matière, aimer les autres frères, aimer toutes les formes de vie, savoir communier avec ces formes de vie et en tirer aussi toute l'énergie. Ce qui fait que lorsque je demande à Dieu de me nourrir, si je veux être nourrie, je dois simplement aller cueillir des légumes et ainsi je serai nourrie car la forme de Dieu habite les légumes. Et lorsque je veux boire, je ne dois pas réclamer à boire, je dois aller boire simplement car la forme de Dieu habite l'eau. Et ma meilleure façon pour rencontrer Dieu, ce serait en buvant de le contempler, en mangeant de le contempler, en embrassant un voisin de le contempler, en regardant les arbres, de le contempler. Puisque ce Dieu puissant est incarné en tout, pour le rencontrer, je n'ai qu'à contempler son image, mais avoir justement la vision juste, l'intention juste. C'est pourquoi à ce moment-là, toute la vie doit devenir une messe. Que vous mangiez du pain, que vous buviez de l'eau, que vous soyez en train de prier, ce qui semble éminemment spirituel par rapport à l'acte simple de se nourrir ou de respirer de l'air. Et pourtant, tout est une messe et tout doit devenir une messe si vous voulez véritablement rencontrer Dieu. Il n'y a pas d'autre façon de le rencontrer. Et le jour où vous êtes capable de ce type de pensée, vous êtes en même temps libéré. Libéré du bien, libéré du mal, libéré du cycle de l'évolution. Vous n'avez plus ensuite qu'à réintégrer la lumière, mais l'évolution, elle s'arrête. Elle n'a plus lieu d'exister, elle n'est plus rien. L'homme a retrouvé sa divinité. Et il ne lui reste plus ensuite qu'à réintégrer cette divinité face au gardien du cosmos, de façon à ce qu'ensemble, ils reforment la grande unité. Nous avons beaucoup parlé ce soir de choses philosophiques. C'est parce que je veux donner des outils de métamorphose. Je ne veux pas dire autre chose qui ne puisse servir la métamorphose. Bien sûr, il existe d'autres discours qui peuvent alimenter votre instruction. Et cela est bien. Il vous faut boire à ces autres discours, alimenter votre instruction. Mais sitôt que vous êtes instruit, méditez au moins 3 heures. Sur chaque chose pour découvrir le cœur de la loi, car c'est le cœur de la loi qui vous rendra libre. Et c'est en étant libre que vous rencontrerez votre âme, que vous rencontrerez Dieu ou votre maître. Et c'est en étant libre que vous pourrez agir sur le monde, transformer le monde et libérer le monde. Car vous n'apportez au monde que ce que vous êtes vous-même. Si vous n'avez pas de liberté, vous ne libérerez pas le monde. Vous continuerez à faire croire au monde que l'univers et que le monde sont une paire d'opposés, sont en duel, prisonniers des binaires. Cultivez votre liberté d'abord et vous verrez que Dieu n'est pas si loin que ça. Qu'il ne s'agit pas d'obtenir un état de conscience, qu'il s'agit de se défaire d'un état de conscience qui ne vous a jamais appartenu. Parce que ce n'est même pas un état de conscience, c'est tout simplement le jeu malsain d'une psychologie qui ricoche contre le bien, contre le mal. L'homme n'est pas une psychologie. Une psychologie, c'est ce qui est créé par des déductions d'une mémoire qui s'appelle le cerveau. Maintenant, si toute votre vie doit être au service d'une bande de mémoire, c'est votre choix, mais ce n'est pas votre destin. Votre destin est d'être une conscience et non pas une mémoire. Alors pour que cette psychologie se taise, pour qu'elle efface les données négatives qui créent des complexes et des traumatismes, et pour qu'il y ait quelque chose de positif qui naisse, il faut tout simplement que vous arrêtiez la vision dualiste. En arrêtant la vision dualiste, je vous donne quelques exemples avant que nous nous quittions. En abandonnant la vision dualiste, vous allez par exemple cesser d'espérer que les autres vous aiment. Quand la vision est dualiste, on a conscience de l'amour et on a conscience de la haine de façon très forte. Et l'individu qui est au milieu de ce champ de bataille se dit « Moi, je suis un homme » ou « Je suis une femme », disons « Je suis un être humain » et « J'ai besoin d'amour pour vivre ». Alors j'attends que les autres m'aiment. Et le cœur ouvert, les bras ouverts, à grandes enjambées, les hommes se lancent à la tête des uns et des autres en espérant être aimés. Et ils attendent l'amour. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout de l'enjambée, il y a des gifles qui tombent, des médisances qui pleuvent, des coups de poing qui tombent. Et le pauvre homme qui arrivait là, le cœur ouvert et le sourire béat, se trouve complètement noirci et bleui de coups de poing de toutes sortes. « Ce n'est pas cela que j'attendais, » dit-il tout naïf. Ah non, je suis tout triste alors. Si l'on me réserve ce genre de régime, je suis malheureux. Et si je suis malheureux, je deviens méchant. Alors moi aussi, demain, je vais frapper. Et dès que je le vois, celui qui m'a embêté, je vais lui en réserver un qui va véritablement le remettre d'aplomb. Et ainsi de suite, celui qui allait tout ouvert pour être aimé, parce qu'il n'a pas été aimé, soudainement devient celui qui va haïr, qui va frapper exactement comme l'autre. Ça, c'est dans le cas de la pensée dualiste. Si vous abandonnez la pensée dualiste, vous vous dites, il y a l'amour, il y a la haine. Mais ça, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est de l'interprétation. Ce qui existe avant tout, c'est la présence. Et cette présence, elle est amour vis-à-vis de celui qui en a besoin. Elle va être réconfort ou elle va être justice vis-à-vis de celui qui a besoin de cette justice et de son châtiment. Maintenant, par déformation, comme je vous l'ai expliqué au début du discours, l'homme va transformer cette présence qui aime en amour humain et cette présence qui est justice en haine. Parce que c'est cela la haine. Ce n'est que la rectification que fait quelqu'un pour ne pas avoir reçu de l'amour. Et la rectification que fait cette personne pour ne pas avoir reçu de l'amour, c'est en montrant aux autres qu'elle n'est pas contente, alors elle ne s'ouvre pas aux autres et elle décide de détester les autres. Quelqu'un qui n'est pas aimé n'aime pas les autres. C'est le rectificatif que fait l'individu. Il se dit, puisqu'on ne m'aime pas, eh bien je n'aime pas. Le jour où on m'aimera, bof, j'aimerai peut-être. La haine en elle-même n'existe pas. C'est un objet très déformé du sens de la justice. Mais donner les instruments de la justice à quelqu'un qui est beaucoup trop jeune, qui ignore complètement les lois, et avec cette justice, il va créer la haine, l'indifférence, l'agressivité. Celui donc qui abandonne la dualité, en même temps, se libère de ce genre de schéma. Il n'attend pas d'être aimé. Il se dit, je vais aimer. Il n'attend pas non plus que la haine cesse vis-à-vis de lui. Il se dit, je vais rayonner. Plus rien ne le touche, et non pas parce qu'il est devenu puissamment indifférent, mais parce que tout simplement depuis l'endroit où il habite et qui est la présence, la dualité apparaît comme des ombres irréelles qui se battent entre elles sur le mur de la caverne. Cela ne le concerne pas, lui, en tant que personne. Ces ombres, avant tout, se battent entre elles sur le mur de la caverne. Donc, ne soyez plus des ombres. Cessez cette vision dualiste. N'imaginez pas non plus que Dieu existe comme un immense Dieu plein de générosité et d'amour. C'est très beau, c'est très bien, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que l'homme existe et que c'est l'existence de cet homme qui justifie l'existence de Dieu. C'est l'existence de cet homme qui permet à Dieu d'exister. Pourquoi ? Parce que Dieu, si on voulait véritablement approcher sa nature et créer un concept qui ne déborde pas trop dans l'erreur, Dieu serait ce néant dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'homme étant la manifestation, l'homme est donc le corps, l'esprit et le mental de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas exister ailleurs qu'en l'homme et par l'homme. Comme l'homme ne peut pas exister non plus sans cette autre partie que l'on appelle Dieu lorsque l'on est versé dans la religion et qui est tout simplement le néant. Et c'est pourquoi Bouddha vous a dit que lorsque vous arrivez au bout du chemin, vous ne rencontrez rien. Non pas parce que c'est le rien qui existe, comme si là encore Dieu vous réservait une mauvaise farce,